prochain débat récurrent entre le Mali et le Conseil de sécurité, qui ressemble fort à un dialogue de sourds. Il faut se rappeler les accrochages parfois peu diplomatiques à l'époque entre le président Ibeka au début de son mandat et le représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, à l'époque. Et ce sont à peu près les mêmes lignes de fracture. Je pense que la question malienne a été portée à l'ONU essentiellement par la France. Et donc les résolutions du Conseil de sécurité portent la marque de l'analyse française. Et ces résolutions-là font peu de place au point de vue malien sur la crise que traverse le Mali. Je pense que ça, c'est une erreur de base et ça se voit d'ailleurs dans la façon donc dans le mandat même de l'AMINUSMA à l'époque, qui était censé être dans le cadre du maintien de la paix, une force essentiellement d'interposition. En tout cas, c'est ce que la lecture que font les Maliens en général. Or, pour les Maliens, il ne s'agit pas d'une mission d'interposition. Il s'agit simplement de défendre l'intégrité territoriale d'un pays membre des Nations Unies. Je pense que le Conseil de sécurité ne prend pas cela en cause et voit donc les problèmes maliens comme étant donc une question, comme si c'était seulement une question purement interne et ne voit pas les ramifications et les fondements internationaux de la crise au Mali. Je pense que la revendication essentielle des Maliens, d'une manière générale, que ce soit gouvernement, même si le gouvernement ne le dit pas de manière tranchée, le point de vue des Maliens, c'est qu'il faudrait que la MINUSCA s'engage davantage et ait un mandat beaucoup plus musclé.
Oui, justement, Aziz Diop.
Ce n'est pas le cas.
Oui, Aziz Diop, qui est le chef de la diplomatie malienne, a souhaité que la MINUSMA s'engage davantage dans la pacification du pays. Est-ce que vous partagez cet avis?
Mais absolument. Je pense que c'est un problème qui a été posé dès le départ, depuis longtemps, et ce n'est pas la première fois que les Maliens le disent. Parce que ce qu'on voit de la MINUSMA, elle est cantonnée dans ses camps, elle subit des attaques, elle ne réagit pas. Elle assiste là à toutes sortes de trafics, des trafics d'armes, des trafics de drogue, devant ses yeux. Bon, elle n'en fait pas son affaire. Quand il y a des accrochages et puis ce que l'opinion publique malienne reproche à la MINUSMA, elle ne s'active que quand il y a des accrochages et surtout quand la partie que soutient la France dans ces mouvements rebelles-là, donc en l'occurrence le MLA et le CMA, sont un peu malmenés, la mission des Nations Unies s'interpose. Donc pour le commun de Maliens, l'aménagement prend fait et cause pour une partie de la rébellion. Je pense qu'en filigrane, c'est un peu sous l'influence française. Je pense qu'il y a des non-dits dans la présence des Nations Unies au Mali. Il faudrait que les Nations Unies revisent leur lecture de la situation.
Oui, mais c'est pourquoi Oui, c'est pourquoi M. Diop a réclamé au Conseil de sécurité de l'ONU un renforcement des capacités opérationnelles de la MINUSMA.
Je pense que ce n'est pas seulement un problème de... Bien sûr, il faut cela, mais ce n'est pas seulement un problème de renforcement des capacités de la MINUSMA. C'est un changement d'analyse de la situation malienne. Tant que les Nations Unies traiteront la question malienne, ne prendra pas soin d'écouter beaucoup plus attentivement les Maliens, surtout, je parle donc des communautés de base, les populations maliennes, ne prendra pas en compte leurs inquiétudes, leurs sentiments et leurs espérances. Je pense que les Nations Unies feront fausse route. Je pense qu'il y a quelque part aussi de la responsabilité de l'État malien, parce que on ne saurait vraiment à long terme confier sa sécurité à des puissances étrangères, même si c'est une organisation internationale. Il y a le jeu de rapport au plan international qui détermine les positionnements des Nations Unies. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les missions des Nations Unies ne sont jamais de missions neutres. La preuve, c'est les autres missions à travers un peu l'Afrique, au Congo et ailleurs. Donc, c'est ça, véritablement, la question.
Est-ce qu'il ne faudrait pas... Oui, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi renforcer ou bien rendre opérationnel au plus vite hein, le G5 Sahel, les forces du G5 Sahel?
Je ne pense pas non plus que ça soit la solution, parce que les stratégies militaires à mettre en route ont toujours fait échec un peu partout dans le monde. Je pense encore une fois que ce n'est pas les stratégies guerrières qui arriveront à résoudre le problème. Il y a des problèmes de fond qui expliquent pourquoi il y a une insécurité grandissante, pourquoi il y a le terrorisme, pourquoi il y a le djihadisme. Cela a des racines économiques. Cela donc dépend aussi des rapports inégaux de domination entre le nord et le sud qui font que les économies de nos pays sont extraverties, soumises aux pressions internationales qui font que ça produit plus de misère dans la base. Et c'est ça qui favorise le recrutement au niveau des rébellions, du djihadisme, du terrorisme et de l'immigration, j'en passe. Donc ça aussi, c'est des questions sur lesquelles il faut se pencher en priorité. Et je pense que la sécurité n'est que l'accompagnement nécessaire donc, à cette orientation stratégique-là. Or, jusqu'ici, si ce n'est pas le cas, et les Nations Unies font fausse route en privilégiant la stratégie militaire. Et ça coûte cher et ça donne peu de résultats.
Oui, professeur Issa Ndiaye, vous allez convenir avec moi que la crise actuelle au Mali n'est pas que militaire, elle est également politique. Est-ce que vous ne reconnaissez pas tout de même que les autorités de Bamako auraient pu prendre d'autres initiatives plus ardues sur le plan politique pour peut-être booster un peu la machine de la réconciliation nationale?
Bien sûr qu'elle est politique, mais ça ne concerne pas seulement le nord du Mali, ça concerne tout le Mali. Et il y a les mêmes problèmes. Et je dis souvent aux gens quand allez un peu à l'ouest du Mali, et il y a les pires routes. Pourtant, les richesses aurifères, l'exploitation aurifère est assez intense dans cette zone. Le budget malien est alimenté à plus de 70% par les ressorts, par les ressources qui viennent des exploitations rivières, la partie ouest du Mali. Or, c'est la partie la moins lotie. Pas de route, pas d'eau, rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est une gestion qui est à remettre en cause au niveau de tout le pays, ce n'est pas que le nord. Or, on a le sentiment que c'est simplement au nord qu'il y a des problèmes, c'est dans tout le Mali qu'il y a des problèmes. Et je pense que s'il y a des réformes politiques à prendre, c'est des réformes politiques qui doivent prendre en compte les réalités de tous les pays, pas seulement de tout le pays, pas seulement de la partie nord du Mali. C'est ça le fond du problème. Il y a en quelque sorte une crise institutionnelle qui se dessine parce que l'expérience a montré que le système qu'on a mis en place à l'occasion de l'avènement de la démocratie ne prend pas en compte les intérêts et les besoins fondamentaux des populations. Que ce soit du nord, du sud, du centre ou ailleurs. C'est ça aussi la crise malienne. Elle n'est pas que nordique.